The chimera, according to dictionary definition, is a hopefully mythical beast in Greek mythology. It had the body of a lion, pardon me, the head of a lion, the body of a goat, I get mixed up, you know, and the tail of an alligator. A formidable beast indeed, one would suspect. And the main feature of this animal was that the closer you got to it, the further away it was from you. Now, that's not my idea, it's their idea, so don't look at me blankly like that. The closer you got to it as you pursued it, the further away it was from you in actuality. So it was very difficult to hunt it down, you see. And that is very much what parapsychology is all about, folks.
Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Épisode 35. Pour le samedi 30 janvier 2010, l'expérience de mort imminente de Jean Morzel. Jean-Marc Donadieu revient dans cet épisode et cette fois-ci il va nous parler d'une étude de cas. Il s'agit du cas de l'expérience de mort imminente de Jean Morzel. Et comme l'interview est assez longue, nous allons nous y plonger tout de suite. Donc aujourd'hui, je suis de nouveau avec Jean-Marc Donadieu.
Bonjour.
Oui, salut à toi. Et aujourd'hui, le sujet de la discussion va être les expériences de mort imminente, EMI, ou les, en anglais, Near-Death Experience, NDE, et particulièrement la NDE de Jean Morzel. Donc, est-ce que tu peux nous présenter les grandes lignes, pour ceux qui ne connaissent pas, de la NDE de Jean Morzel, de son témoignage, de comment ça s'est passé?
Voilà, donc alors il faut peut-être définir au départ EMI. La définition, c'est l'expérience de mort imminente, ou EMI, désigne un ensemble de sensations vécues par certains individus pendant un coma avancé ou une mort clinique, avant qu'ils ne soient réanimés, et dont ils témoignent comme d'une possibilité que la conscience survive à la mort. Alors ça, c'est la définition elle-même, hein. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette partie, étant un être humain, c'est un peu comme tout le monde, la conscience pourrait survivre à la mort. Alors, la chose est partie, on m'a souvent raconté cette histoire, hein. D'ailleurs je n'en connaissais pas le nom, mais bon, je pense que les gens qui vont écouter, peut-être même sans connaître ce cas précisément, ont entendu cette histoire. On m'a souvent parlé de cette histoire qui se résumait, quand on me l'a raconté, mais je vais faire un résumé bien mieux que ça. Alors c'est la fameuse histoire de cette personne qui serait morte, d'ailleurs elle est déclarée morte à aucun moment, hein, mais bon, c'est comme quoi les choses se propagent mal. Serait morte sur une table d'opération, serait sortie de son corps. En sortant de son corps, aurait vu diverses choses, puisqu'après il revient, hein, donc il y raconte. Et le plus étonnant, la clé de l'histoire, la clé de voûte de l'histoire, c'est qu'il aurait vu sous la table d'opération, alors moi ça m'a toujours été raconté comme ça, une plaque avec un numéro. Et suite à l'opération, donc il réintègre son corps et autres, quand il est réveillé, il raconte ça et le chirurgien vérifie effectivement cette plaque avec ce numéro existe. Donc ça c'est ce que on m'a toujours raconté. Alors, c'est parti en fait d'une journée, je faisais une journée avec l'association OVNI Languedoc, une journée d'information. Et il y a la journée à la fin de la journée, bon, donc on fait un repas, hein, les gens de l'association, puis des participants, les gens qui voulaient être là. Et en discutant en table, bon, mais naturellement, on parle d'OVNI et on part un petit peu sur les à côté, sur le paranormal. Et à un moment, une personne de l'association, Angélique, me parle de cette histoire. Alors je lui donne un peu mon avis a priori, je lui dis déjà, est-ce que tu peux me donner un nom? Parce que moi j'ai souvent entendu parler de ça, mais j'ai même pas un nom, j'ai rien. J'en étais à croire même que c'était une légende urbaine, hein, disons-le carrément. Et elle me dit non, mais il y a ce professeur anesthésiste spécialiste, je ne me souviens même plus le nom, mais il a vérifié et il dit que c'est vrai, il a des preuves scientifiques alors tout de même. Alors là, à ce moment-là, ma copine qui était en France l'a vu. Quand on me dit argument d'autorité, un professeur spécialiste qui a des preuves scientifiques, alors là, ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, bon, mais il y a des preuves, il y a un spécialiste, il y a des preuves scientifiques, il faut que je me penche là-dessus. Voilà. Alors je le note dans un coin de ma tête, à la première occasion, il faut que je creuse ça. S'il y a des preuves, donc je vais pouvoir les lire, les voir et autres, il faut que je regarde ça. Alors j'entame rapidement quelques recherches par derrière, et on voit, l'histoire en question se passe en France, près de Toulouse, qui est pas très loin de chez moi, ou au mieux je peux me déplacer si j'ai besoin, et le témoin, donc tout ça est en français, tout le témoin est en français, et il est vivant. Alors là, moi je me dis, c'est super. Déjà c'est en France, ça facilite les recherches et un tas de choses, il est vivant par-dessus le marché, je vais pouvoir le contacter lui au minimum, ça va être super, on va pouvoir vérifier un peu tout ça. Alors, j'ai entrepris de vérifier, mais auparavant, on va faire un peu le résumé donc de cette affaire. Alors, le résumé, je le sors d'un article dans la Dépêche, un article de 2009. Alors, je vous lis rapidement le résumé. On est en juin 1949. Ce jeune appelé de 20 ans est transporté mourant à l'hôpital militaire Larrey. Il a reçu une balle dans l'abdomen lors d'un exercice de tir. L'armée annonce son décès à ses parents. Mais les médecins vont tenter le tout pour le tout. L'opération du foie, une première à l'époque. Lorsque Jean se réveille, il est dans un bloc opératoire. Flottant au-dessus de son corps inerte, il voit deux chirurgiens et trois infirmières s'activer autour de lui. Il entend tout, observe un médecin extraire son foie en petits morceaux pour le réparer. Il voit une infirmière tomber dans les pommes prise de nausée. En bougeant dans la pièce, il s'aperçoit aussi qu'il peut traverser les murs, sortir dans le parc, visiter le garage à vélo. Explorant le bloc opératoire, il passe sous la table sur laquelle il est allongé et remarque une plaque marquée « Armes et cycles de Saint-Étienne ». Alors là, on cite le témoin. « Je me souviens aussi d'être entré dans un tunnel très noir, attiré par une lueur qui semblait de loin pâle comme celle de l'aurore. » Je sais que c'est difficile à croire, mais au bout du tunnel, il y avait une immense lumière qui m'entourait, me parlait et surtout qui m'aimait. Ce fut un moment fabuleux, merveilleux. J'ai ressenti un bonheur indescriptible. Puis petit à petit, je me suis éloigné à regret. Je me suis senti réintégrer mon corps par la fontanelle en haut du crâne, raconte Jean Morzel, donc le témoin. Quelques jours plus tard, le blessé confie son hallucinant voyage au docteur Cernet qui l'a opéré. Le chirurgien va au bloc vérifier cette histoire de plaques sous la table, est liée. D'autres détails rapportés par le malade sont confondants. Donc ça, c'est le résumé de l'histoire. Donc.
Pour être clair, au niveau des différents phénomènes, donc il y a le phénomène des sorties hors du corps, où le sujet a l'impression de se décorporer, que sa conscience sort de son propre corps et s'observe elle-même. Et ce genre de phénomène, évidemment, peut se produire dans d'autres circonstances que les expériences de mort imminente. Les expériences de mort imminente, c'est quand quelqu'un est en train de mourir, par exemple, à une attaque cardiaque, et à ce moment-là, quand il est réanimé, et quand il revient à la conscience, il décrit avoir eu une expérience, ce qui inclut un certain nombre de choses comme les fameuses être dans un tunnel et voir une vive lumière, et puis aussi, ça inclut parfois une sortie hors du corps, et donc dans ton témoignage, c'est bien une expérience de mort imminente qui a une composante de sortie hors du corps, puisqu'il s'est vu lui-même depuis dehors.
Voilà, tout à fait. Alors, il y a une chose à noter peut-être immédiatement, bon, on va découper tout ça, mais il est à noter tout de même que en dehors de la fameuse lettre à ses parents lui annonçant sa mort, que je mets en doute d'ailleurs, de mon côté, personnellement, dans tout ce que j'ai pu entendre, dans tous les rapports, même dans ses témoignages à lui, il n'est déclaré mort à aucun moment. Le seul moment dans l'histoire où il est déclaré mort, c'est cette fameuse lettre qui aurait été envoyée à ses parents. Mais là aussi, après 14 ans de médical, dont une grande partie sur le plateau technique, les urgences, la réanimation, le bloc opératoire, justement, même en 1949 chez les militaires, j'ai des doutes sur l'existence de cette lettre. Hein. Moi, la première chose que j'ai fait, puisque ça se passe en France et tout, et qu'on est à une heure où on a Internet, un outil merveilleux, la première chose que j'ai fait, c'est déjà chercher le témoignage. Donc je voulais lire et entendre, si possible, la personne, puisqu'elle est vivante, raconter un peu son histoire. Ça, c'est la première chose que j'ai fait. Donc j'ai été gâté parce qu'effectivement ce monsieur, j'allais dire, il est assez bavard. Enfin, disons, c'est pas péjoratif, hein, mais ne se fait pas prier pour raconter son expérience du tout. Donc j'ai pu voir plusieurs vidéos, des conférences, des émissions où il est interviewé. Et j'en ai relevé trois avec une émission radio, là, à ce moment-là, mais qui dure, si mes souvenirs sont bons, environ 1h30. Et donc, j'ai écouté ce monsieur raconter son histoire plusieurs fois. Alors, j'ai lu la façon dont c'était rapporté, et j'ai surtout écouté ce monsieur lui-même raconter son histoire. Parce que c'est là où je trouve que les choses sont intéressantes dès le début. Et la première chose que je constate, et que n'importe qui peut constater, c'est que quand on écoute ce monsieur, finalement, cette histoire, il y en a plusieurs versions. Il y a des éléments qui se rajoutent au fur et à mesure du temps. Alors, justement, j'ai essayé de faire un ordre chronologique avec ce que j'ai, hein, c'est-à-dire ce que j'ai mis dans l'article. Il me manque la vidéo canadienne, qui est la première. Bon, j'ai écrit à la chaîne et autres, je n'ai pas eu une réponse, je ne sais pas de quand elle date. Ça c'est un petit peu ennuyeux. Mais bon, on remarque immédiatement, quand on l'écoute lui-même, même en faisant abstraction de la façon dont ça a été rapporté, quand on l'écoute lui, on se rend compte que l'histoire, elle change. Et elle change de façon à devenir, moi j'y vois une corrélation dans le temps, j'ai l'impression que plus on avance et plus il s'en rajoute, elle devient de plus en plus, entre guillemets, grave. Son cas est de plus en plus grave. Dans le sens où, je prends un exemple qui m'a vraiment frappé, parce que je le trouve important aussi. La première chose qui m'a frappé, c'est que plusieurs fois il raconte, bon, il a son accident, hein, il reçoit une balle en bois, à l'époque c'est un tir à blanc, mais à l'époque les balles étaient en bois, j'ai vérifié, ça existe. La plupart du temps, l'histoire va être racontée, il reçoit la balle, il s'écroule, et il se réveille, j'allais dire sur la table d'opération, non. En fait, il se réveille, et c'est là qu'il voit un corps, dont il ne comprend pas immédiatement que c'est le sien, qui est sur une table d'opération. Alors ça veut dire que tout de même c'est grave, puisque bon, il ne reprend pas conscience entre le moment de l'accident et l'après-opération. Or, je ne l'invente pas puisque c'est lui-même qui le raconte, dans une autre version, qui est antérieure, moi dans ce que j'ai trouvé c'est antérieur à la version que je viens de raconter, il est transporté dans un premier temps à un hôpital, il en est conscient, il est transporté suite justement à sa gravité, à la gravité de son cas, à l'hôpital militaire de Larré, qui est un hôpital de pointe, dès le début d'ailleurs, hein, j'ai regardé l'historique de l'hôpital, c'est un hôpital de pointe parmi les hôpitaux militaires. Il est transporté là-bas, mais il est toujours conscient. À tel point qu'il rentre dans l'hôpital, il voit très bien, et ça c'est important, il voit très bien la voûte d'entrée de l'hôpital, il décrit du granit rose. Et il dit lui-même, on me pose un masque avec du chloroforme et de l'éther, donc pour l'anesthésie, pour l'endormir. Alors, moi, première chose où j'ai tiqué, c'est un petit peu là-dessus. C'est que j'ai deux versions. J'ai une version où il est conscient des transports et autres, et naturellement, il va perdre conscience au moment où on lui fait l'anesthésie, c'est le but. Et après, j'ai d'autres versions où c'est plus grave parce qu'il ne prend pas conscience entre le moment où l'accident se passe et le moment où il se retrouve au plafond de cette salle d'opération. Moi, j'ai le sentiment que la chose s'aggrave, puisqu'il est inconscient dans la deuxième version, c'est que c'est un petit peu plus grave. Alors ça, c'est la première chose que j'ai relevée. Il y en a bien d'autres. Quand on écoute les récits, on a également, et c'est aussi un passage important, parce que ce sont des passages qu'ensuite il va raconter comme étant des preuves de sa décorporation. On va dire le mot comme ça. C'est censé prouver sa décorporation. Or, moi, quand je lis et quand j'écoute, je ne l'invente pas, hein, j'ai tout mis dans l'article, quand on écoute ce monsieur, il dit, par exemple, dans une conférence donnée à l'INRES qui date de 2008, il dit qu'une infirmière s'évanouit. Et une infirmière tombe dans les pommes devant tout ce sang et tout. Alors déjà, moi, bon, il se trouve que j'ai fait 14 ans dans la santé, dans les hôpitaux. Sur les 14, j'en ai fait 8 sur le plateau technique. Une infirmière qui tombe dans les pommes à la vue du sang, j'ai beaucoup de mal. Faut changer de métier si on en est là, quoi. Parce que du sang, on en voit tout le temps. Hein. Et c'est un peu la base du métier, surtout sur un plateau technique. Donc j'ai déjà un petit peu de mal avec ça, mais ça c'est pas le plus... C'est que plusieurs fois dans sa version, il raconte voir une infirmière tomber dans les pommes, mais dans d'autres versions, il raconte qu'il y a une altercation assez violente entre le chirurgien et son assistante. Et là, l'infirmière qui tombe dans les pommes, elle disparaît, elle n'y est plus. Alors là aussi, on monte un peu dans le degré de gravité de ce qui se passe. C'est-à-dire, dans un premier temps, on a une infirmière, dont pourtant c'est le métier qui est habitué, surtout dans un hôpital militaire, qui s'évanouit à la vue du sang, donc c'est censé prouver à quel point tout de même la chose est grave. Et ensuite, on passe à cette infirmière qui disparaît, et on passe au grade au-dessus, c'est le chirurgien et son assistante qui se disputent sur la façon d'opérer. Alors là aussi, bon, déjà on monte un peu dans la gravité, hein, on monte en grade aussi dans les gens impliqués, mais là aussi, un chirurgien et son assistante qui se disputent au milieu d'une opération, j'ai du mal. Quelque chose comme ça, même en 1949 chez les militaires, il y a un compte-rendu à faire, hein, dans une salle d'opération, il y a minimum 8 personnes, il y a un compte-rendu à faire parce que ce n'est pas quelque chose qui doit se faire. On opère, on fait ce qu'il y a à faire, ensuite on se dira ce qu'on a à se dire. Mais bon, il faut être professionnel. On se dispute pas au milieu d'une opération importante comme ça. Mais bon, je veux bien que ça soit arrivé. Moi, ce que je note surtout, c'est que on a deux choses différentes. Un coup, on a une infirmière qui tombe dans les pommes, et comme si ça ne suffisait pas, un peu plus tard, on passe au grade au-dessus, c'est plus l'infirmière, c'est carrément le chirurgien et son assistante qui se disputent. Si les souvenirs sont si précis qu'on nous le dit et ainsi de suite, moi ce que je constate c'est les changements. Je constate les changements. Dans les changements, il y en a un aussi qui vaut son pesant de cacahuètes, c'est que on a c'est dans la vidéo de l'INRES. Alors à un moment il nous parle de cette plaque donc qui sera la clé de voûte hein, de ce qui est raconté, qui est le plus important. Cette plaque, dans une vidéo de l'INRES en 2008, elle a des couleurs. Elle est verte et blanche. Bon, ce qui sont les couleurs de Saint-Étienne, hein. À l'époque, il y avait le club de foot, les verts, vert et blanc. Mais bon, ces couleurs, c'est la première fois où on en entend parler. Alors, je vais le dire tout au long, je crois que Monsieur Morzel est sincère. Mais moi, ce que je vois, c'est que l'histoire, j'allais dire, s'embellit. Elle s'embellit dans le sens où il y a des éléments qui viennent se rajouter, mais surtout, elle s'aggrave à certains niveaux. Et au niveau de la plaque, on a de plus en plus de précision, comme si ça suffisait pas que cette plaque, il l'ait vue et qu'elle ait existé. Maintenant, on a les couleurs qui se rajoutent. J'ai l'impression que le truc grossit, en fait. C'est l'impression que j'en retire quand je lis un peu tout ça. Alors ça, bon, ce sont des incohérences que j'ai relevées en comparant les différentes interviews. Et on a deux choses aussi qui à mes yeux ont leur importance dans l'histoire dans l'idée que cette histoire s'aggrave et la chose est de pire en pire. On a un moment donné, il nous parle du fait d'être le premier Toulousain qui bénéficie d'un traitement à la pénicilline. Alors j'ai cherché un petit peu. Alors rappelons que l'histoire se passe en 1949. Et moi, j'ai cherché, et il se trouve que la production industrielle de la pénicilline commence en 1943 aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada. Elle commence industriellement en France en 1944, donc on est déjà 5 ans avant, et il se trouve que l'hôpital Larrey de Toulouse est un hôpital militaire. On sait très bien que les militaires sont les premiers à bénéficier des nouvelles technologies, le reste, hein, on le sait, c'est dans une logique militaire, les militaires défendent leur pays, donc bon, on peut être d'accord ou pas, je le suis pas toujours, mais il y a une logique derrière ça. Mais sachant que du moment où on produit en France de la pénicilline en 1945 industriellement, j'ai beaucoup de mal à croire que Monsieur Jean Morzel, dans un hôpital militaire, étant lui-même appelé militaire à l'époque, soit le premier Toulousain à bénéficier de la pénicilline. Ça voudrait dire que l'armée a mis 4 ans avant de se servir de la pénicilline dans ses hôpitaux. J'ai beaucoup, beaucoup de mal. Alors bon, dans l'article, j'amène aussi hein, ce qui me porte à faire cette conclusion. Mais j'ai beaucoup de mal à croire qu'il soit le premier. D'ailleurs, dans un premier temps, dans son histoire, on l'envoie à l'hôpital d'Auch. C'est le plus près de l'endroit où se passe l'accident. Et de Auch, on l'envoie justement vers l'hôpital Larrey parce que celui-ci est mieux équipé. Et je le répète, dans l'histoire de l'hôpital Larrey, il est clair que c'est un hôpital de pointe, donc qui doit être bénéficié au fur et à mesure des meilleurs équipements qu'il soit. Donc l'histoire du premier Toulousain traité, la pénicilline, moi j'ai beaucoup de mal à considérer que c'est bien le cas. Et comme si ça ne suffisait pas, on nous rajoute, il est également le premier sur qui on utilise le bistouri électrique, le premier Toulousain, sur qui on utilise le bistouri électrique. Alors là aussi, moi je veux bien, mais après recherche, il se trouve que le bistouri électrique, il entre en jeu dès la guerre de 14. J'ai trouvé un PDF donc sur Google, hein, ce sont des livres qui sont numérisés, c'est la petite histoire de la médecine, et on trouve, je cite, « À la veille de 14-18, changement de décor, le bloc opératoire est né. C'est une pièce claire éclairée par une large verrière. La fée électricité apporte sa contribution, le projecteur dispensant une lumière sans ombre, etc. Ou encore le bistouri électrique. La table d'opération est devenue articulée et basculante, permettant de disposer le patient dans une position confortable, etc. » Donc, on a déjà, à la guerre de 14-18, on a déjà des bistouris électriques utilisés par des militaires. On a des tables d'opération déjà, qui sont basculantes et autres. Difficile de croire qu'en 1949, l'hôpital militaire Larrey utilise ça pour la première fois, la pénicilline et le bistouri électrique sur Monsieur Jean Morzel. Très franchement, au vu des éléments rassemblés, c'est très difficile à croire. Maintenant, de notre côté, ça renforce encore une fois la gravité du cas. Vous vous rendez compte, non seulement, alors, c'est comme si ça ne suffisait pas, le fait qu'il soit sorti de son corps, et que soi-disant il ramène des éléments qui ont été vérifiés et qui donc seraient, on y viendra plus tard, des preuves scientifiques, comme si ça ne suffisait pas, il faut qu'en plus il soit le premier Toulousain sur qui on utilise la pénicilline, et le premier sur qui on utilise le bistouri électrique. Malheureusement, ce n'est visiblement pas le cas, je ne pense pas que ça puisse être le cas. Pour moi, non, ce n'est pas possible. Et il y a une autre chose. Alors, je le disais tout à l'heure, à aucun moment, en dehors de cette lettre envoyée aux parents, à aucun moment, il n'est déclaré mort, hein, il faut être clair là-dessus. Moi, cette lettre aussi, je la mets en doute. Pourquoi ? Je la mets en doute parce que bon, j'ai fait aussi mon service militaire, c'était en 89, certes, hein, 50 ans après, mais je l'ai fait également dans l'infirmerie. J'ai fait 14 ans en hôpital, je connais pas mal de milieux, je pense. Et je suis extrêmement surpris qu'on envoie une lettre à ses parents le déclarant mort, alors que dans le même temps, on le change d'hôpital pour l'opérer. Un certificat de décès, c'est un médecin, au minimum un médecin qui le signe. Personne d'autre, même dans l'armée, hein, il ne faut pas se leurrer, même dans l'armée, même en 1949, un certificat de décès, c'est signé par un médecin. Comment un médecin peut signer un certificat de décès, faire une lettre aux parents, alors que dans le même temps, parce que ça, en plus, le truc se déroule dans les 24 heures, puisqu'il est opéré dans les 24 heures. Comment un médecin peut signer un certificat de décès, on écrit aux parents, ils reçoivent la lettre, alors que en même temps, on est en train d'opérer ce bonhomme, ça tient pas debout, c'est pas possible. Ou alors en 1949 à Toulouse, les militaires ils font des opérations sur les morts. Ça ne tient pas debout, je suis désolé. Je ne dis pas qu'il ment, mais moi je suis désolé, même avec de la bonne volonté, ça ne tient pas debout. C'est une chose qui ne peut pas arriver. En 24 heures, un médecin signe un certificat de décès, alors qu'en même temps on l'envoie se faire opérer ailleurs, et la lettre arrive chez les parents. J'y crois pas. C'est pas possible. Il faut être logique. Ce n'est pas possible. Simplement pas possible. Et ça aussi, moi, je dis, inconsciemment de sa part, mais on viendra un peu plus tard aussi sur cette fameuse chose, mais ça embellit l'histoire. Ça la rend plus dramatique. Vraiment, on fait du pathos. Et c'est un surplus. L'histoire en elle-même, déjà, elle est suffisamment étonnante. Il n'y a pas besoin de rajouter tout ça. Surtout que, à mes yeux, ça ne tient pas. Ça, ce sont les premiers éléments que j'ai trouvés, qui sont des incohérences, hein, finalement. Non seulement dans le récit, parce que bon, l'histoire, c'est la première chose qu'on peut voir quand on écoute un petit peu. L'histoire change, réellement. Et non seulement, comme je le disais, des éléments sont apportés, ils n'apportent pas grand-chose finalement à la chose, hein, puisque dans cette affaire, il s'agit de savoir quoi ? Il s'agit de savoir si effectivement la conscience peut, entre guillemets, sortir du corps et même y revenir par la suite. Donc je trouve que ces éléments ne sont pas... Moi, je vois pas trop l'intérêt. Le seul intérêt que je peux trouver à ces éléments, c'est que ça vient renforcer l'aspect dramatique de la chose et l'aspect aussi sensationnel de cette histoire. Bon, je trouve que quelque part, c'est une erreur parce que justement, ils ne sont pas réellement utiles. L'affaire en elle-même est suffisamment étonnante comme ça. Et malheureusement, si on vérifie, bon, mais comme je le dis, hein, comme je l'ai fait, si on vérifie, on se rend compte que ça ne tient pas. Et on peut commencer déjà à douter de la suite, hein, de tout ce qui s'est passé dans cette histoire. Donc si on enlève, entre guillemets, je veux dire, après avoir discuté et vérifié ça, on peut se dire, bon, mais dans cette histoire, il reste quoi? Il reste tout de même quelque chose. Il y a cette fameuse décorporation. Alors, rappelons que ce monsieur, sur la table d'opération, sort de son corps. D'ailleurs, dans un premier temps, il ne calcule pas que c'est son corps à lui, il ne calcule pas que c'est lui. Il sort de son corps, donc il va vivre quelque chose d'assez étonnant, mais surtout, il va ramener des renseignements, des choses qu'il a vues, qui auront été par la suite vérifiées. Alors, à ce stade-là, je peux proposer de décortiquer un peu justement cet épisode de la décorporation. Alors, la première chose que j'ai relevée, c'est qu'il parle d'une boule de lumière pleine d'amour au bout d'un tunnel. Alors bon, ce fameux tunnel avec la boule de lumière est relativement classique dans les NDE. Je dis classique, mais en cherchant, en me renseignant, je me suis rendu compte que ce n'est pas systématique. Hein. Il y a des NDE qui sont rapportés, dont on ne parle pas de ce tunnel ni autre. Mais bon, là, dans ce cas, il en parle. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir. Monsieur Morzel le dit lui-même dans ses interviews, avant que tout ça lui arrive, Monsieur Morzel est, je peux dire, très religieux. Il le dit lui-même, hein, c'est un catholique fervent, il est réellement religieux. Alors bon, quand on me dit « je suis religieux catholique », et quand on me dit « j'étais sur la table d'opération, j'étais presque mort, et puis j'ai vu une boule de lumière emplie d'amour qui m'a parlé », je fais immédiatement un parallèle avec Dieu. Parce que Dieu, quand on est mort, d'après ce que j'en sais, hein, le Dieu catholique, quand on est mort et qu'on est au paradis, si on regarde son visage, on reste 1000 ans en béatitude. Justement, il n'a pas de visage, il n'a pas d'aspect. Et je trouve que cette boule de lumière remplie d'amour qui lui parle, c'est pas très loin de l'imagerie catholique de Dieu. Donc je trouve pas très étonnant qu'il ait vu ça, même si d'autres l'ont rapporté, mais on verra aussi un peu plus loin que le fait que d'autres les rapporter n'est peut-être pas si anodin que ça. Alors moi, dans un premier temps, bon, je ne m'étonne pas trop de cette boule de lumière. J'ai trouvé une iconographie catholique normale, mais surtout, bon, cette boule de lumière, c'est pas un élément qu'on va pouvoir vérifier, ça. Hein, donc je passe assez rapidement dessus. Alors ensuite, quand on décortique donc le récit de cette OBE, Out Body Experience.
Ouais, je voulais juste rebondir un peu ce que tu disais, parce qu'on n'a pas encore vraiment expliqué clairement aux auditeurs, mais les sceptiques, ils ne disent pas que le phénomène des sorties hors du corps ou que le phénomène des expériences de mort imminente n'existe pas. La position sceptique, c'est que on n'a pas besoin de ce qu'on appelle l'hypothèse survivaliste pour l'expliquer. Donc on n'a pas besoin de l'hypothèse que la conscience peut réellement sortir hors du corps ou que la conscience peut réellement survivre à la mort du corps pour l'expliquer. On peut expliquer, en fait, ce genre de phénomène, enfin de témoignage provient de l'activité cérébrale au moment où on est en état de mort imminente. Il n'est pas étonnant que les gens rapportent ce genre d'expérience par la suite. Et ici, dans le témoignage de Jean Morzel, ce que tu mets en cause, lui, il cherche à valider le fait que sa sortie hors du corps est authentiquement paranormale par le fait qu'il a vu la plaque. Et c'est ça que les sceptiques mettent en cause, c'est qu'il y a pas, il est pas sa conscience n'est pas réellement sortie hors du corps.
Voilà, donc effectivement, c'est quelque chose, bon, comme je disais, qu'on retrouve souvent dans les NDE, hein, c'est pas systématique. Mais bon, ce n'est pas, comme on le dit, ce n'est pas une chose vérifiable, et ça peut s'expliquer le fait que la chose soit commune à des gens disséminés un peu partout sur la planète et ayant des cultures différentes. Bon, ça peut effectivement s'expliquer simplement parce qu'on est tous équipés du même cerveau et qu'à un moment donné, le cerveau, s'il a plus d'oxygène ou autre, il va réagir chez tout le monde de la même façon puisque c'est un cerveau humain, hein, tout de même. Donc, pour moi, à ce stade-là, ça se tient là, d'autant plus que d'une manière ou d'une autre, cette histoire de boule, on ne pourra pas la vérifier. Donc là, ce n'est pas une preuve de quoi que ce soit. Alors il y a des gens qui partent du principe d'accepter que, voilà. Bon, moi en tant que sceptique, ce n'est pas quelque chose que je peux vérifier, donc c'est quelque chose que je vais laisser de côté, je ne vois pas là une preuve. Par contre, durant son récit de cette fameuse OBE, de cette sortie du corps, alors là, il y a des éléments qui sont présentés comme étant vérifiés et comme étant donc des preuves scientifiques. Alors, on va les énumérer, on va les prendre un par un. Dans un premier temps, par exemple, il raconte, donc il sort de la salle d'opération, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un point d'eau. Alors, il sort de pendant sa décorporation, hein, donc son corps dématérialisé, on dira, sort de la salle d'opération et il aperçoit un point d'eau dans une autre pièce. Alors, il le dit, je suis arrivé dans une petite pièce où se trouvaient plusieurs robinets d'eau. Et alors ça, c'est présenté notamment par le professeur Charbonnier, par exemple, et d'autres, s'est présenté comme étant une preuve, une des preuves de sa décorporation. Moi, le fait qu'un professeur, le professeur Charbonnier est médecin anesthésiste réanimateur, je suis étonné qu'il présente ça comme une preuve scientifique, parce que moi, de là où je suis à l'instant même, je peux vous parler, vous me dites n'importe quel hôpital, je peux vous dire oui, il y a un point d'eau. Parce que quelqu'un me donne un hôpital où il n'y a pas des robinets, un lavabo et le reste. Ça n'existe simplement pas. Ce n'est pas possible. Se laver, c'est la base même de l'asepsie. Même en 1949, je veux dire, je sais pas, c'est comme si vous me disiez, ah, mais je me suis décorporé, je suis allé dans une cuisine, il y avait des fourneaux. Voilà, je vois pas ce qu'il y a d'étonnant à trouver un point d'eau. Je trouve ça même ridicule de mettre ça en avant, parce qu'un point d'eau dans un hôpital, très franchement, sans me décorporer, sans rien, vous me donnez le nom de l'hôpital, je vous dis de suite, là, oui, il y a un point d'eau, allez vérifier, il y est. C'est obligatoire, hein. Déjà, près, c'est quoi? C'est 250 mètres, 3 kilomètres, 100, c'est quoi? C'est vraiment, mais là, en plus, je trouve ça vraiment ridicule parce que un point d'eau dans un hôpital à proximité, mais évidemment, évidemment, dans un hôpital, il y a toujours un peu partout de quoi au moins se laver les mains, et même en 1949. Je trouve vraiment ridicule, d'autant plus venant de la part de médecins, de mettre ça en avant comme étant une preuve. Je trouve ça vraiment ridicule.
Today's a good day to die.
Flatline.
30 seconds to go.
Can you recall any specific emotion or sensation?
No, but there's something out there.
We're running out of time.
300, clear.
Nothing.
Your heart, go again. Clear.
Nothing, I can't hear anything.
Come on, Nelson.
Breathe.
We lost him.
No!
Next.
2 minutes.
2:10.
Was there anything negative about your experience?
This is too weird.
We've experienced death. Now somehow we brought our sins back physically.
They're past.
That is not a hallucination, and it is not possible.
Oh my God.
You withheld information that's the same as lying.
You wouldn't have done it.
At least we would have had a choice.
They're not real.
Hey, come on, they're your sins. Live with them. I do.
No! Nelson, please!
I thought I paid my dues!
Thank you for the nightmare.
No!
Come on, Joe!
Flatliners, some lines shouldn't be crossed.
Et dans le même ordre d'idée, il décrit donc qu'il voit un parc à vélo. Alors, le parc à vélo, là aussi, il y a deux choses. Il y a que dans une des versions qu'il raconte, donc, quand il entre à l'hôpital d'arrêt, il est conscient. Il est conscient puisqu'il voit, et il le décrira plus tard dans sa décorporation, il voit le granit rose qui est à l'entrée de l'hôpital. Bon, alors déjà, le parc à vélo, puisqu'il voit ça, pourquoi il ne verrait pas le parc à vélo? Déjà. La seconde chose, c'est qu'il faut aussi se rappeler, ça se passe en 1949. En 1949, on est quoi? On est 4 ans après la Seconde Guerre mondiale. Le pays est dévasté. En 1949, je pense pas que tout le monde ait encore les moyens de rouler en voiture. Ça, c'est une première chose. D'ailleurs, j'ai fait les recherches. Et c'est dans l'article aussi, hein, il n'y a pas énormément de voitures. Ce que j'ai trouvé, c'est Abel Châtelain, revue de géographie jointe au bulletin de Société géographique de Lyon et de la région. Donc j'ai trouvé que c'est en 1950, ça, mais le parc de voitures en France, il n'est pas énorme. Ça, c'est une chose. La seconde, c'est que moi, je suis né en 69, et je me rappelle encore que gamin, on avait des plaques d'immatriculation au vélo. Donc le vélo en 1949, déjà c'est quelque chose qui est extrêmement courant. Ce qui est plus rare que le vélo, c'est la voiture en revanche. Il n'y a pas grand monde en 1949 qui peut se payer une voiture. Déjà, donc d'être étonné qu'il y ait un parc à vélo dans un hôpital, déjà, quand on regarde le contexte, là aussi c'est ridicule. Mais encore plus fort, là aussi, manque de peau, j'ai fait 14 ans dans le milieu hospitalier. Même aujourd'hui, il est obligatoire pour tout hôpital d'avoir un parc à deux roues. C'est obligatoire. Et un parc à deux roues, il va forcément être couvert, parce qu'il le décrit comme étant couvert par de la tôle ondulée. Alors, un parc à deux roues, non seulement c'est obligatoire, parce qu'il y a plus de médecins qui circulent en moto, justement, pour se déplacer plus vite et plus facilement, il est obligatoire pour tout hôpital d'avoir dans son parking un parc à vélo. Il me paraît évident qu'un parc à vélo, on va le couvrir, parce que tout de même, et en 1949, avec quoi il pourrait être couvert d'autre que de la tôle ondulée? Bon, on peut tirer à pile ou face, tôle ondulée ou des tuiles. Bon, la tôle ondulée pour un parc à vélo, ça me paraît, voilà, ça fait une protection. Un parc à vélo, c'est ouvert, hein, c'est pas une pièce chauffée et le reste. De la tôle ondulée, là aussi, je ne vois pas quelque chose de vraiment transcendant qui prouverait la sortie du corps. Il faut être clair, ce sont des éléments que sans sortie du corps, sans rien, je pourrais vous donner concernant l'hôpital que vous aurez choisi. Et sans me tromper, par-dessus le marché. Vous irez vérifier, vous trouverez un parc à deux roues qui est couvert, vous trouverez de l'eau, vous trouverez tout ça. Alors ça aussi, ça me paraît des éléments, bon, ça, on rajoute, voilà, il faut que ça fasse beaucoup. Mais je suis désolé, ça ne prouve rien. Je dirais même que c'est ridicule. Alors, on va rentrer un peu plus dans les détails importants, justement. Alors, il nous dit, à un moment donné, alors là, on entre dans l'important, que au moment où il fait sa décorporation, qu'il est encore à l'intérieur de la salle d'opération, donc il assiste lui-même à son opération, il nous dit des choses, par exemple, qu'il voit le chirurgien tenir son foie. Et qu'après, il décrira au chirurgien, que le chirurgien lui dira, ben oui, voilà, effectivement, c'est exactement ça et tout. Bon, il est touché à l'abdomen, le foie, dernière nouvelle, c'est pas dans le bras, c'est pas dans la tête hein, non plus, c'est à l'abdomen. Bon, voilà. À quel moment, ça c'est ce que je saurai plus tard, j'espère. À quel moment il en parle au chirurgien, si c'est deux ou trois jours après, bon, il peut très bien avoir parlé avec les infirmières et autres qui lui auront parlé de son foie. Vous teniez mon foie dans la main, ainsi de suite. Bon, mais tout ça, je veux dire, ça correspond à l'idée qu'on peut se faire d'une opération, quoi, d'une opération à l'abdomen. Là non plus, il n'y a rien d'exceptionnel. Alors, pour entrer dans les choses qui seraient, entre guillemets, exceptionnelles, il nous dit qu'à ce moment-là, il sait ce que vont dire les gens avant qu'ils le disent. Alors ça, c'est fort, effectivement. Le petit problème, encore une fois, c'est qu'on ne peut pas le vérifier. Le chirurgien est mort. On n'a pas les noms des infirmières et autres, et tout ça est tellement vieux, parce qu'il met 40 ans, ça aussi j'aurais dû le dire au départ, il met 40 ans avant d'en parler, hein. 40 ans c'est long, il y a beaucoup de gens qui sont morts justement entre-temps, qui auraient permis de vérifier certaines choses. Donc cette histoire, non seulement cette histoire de « je sais ce que les gens vont dire avant qu'ils le disent », elle est invérifiable, mais en plus, permettez-moi de mettre ça en doute, dans le sens où un coup il nous raconte cette infirmière qui tombe dans les pommes, et pas un mot sur le chirurgien qui a une altercation avec son assistante. Et inversement, un peu plus tard, on a une autre version. J'ai assisté à une altercation entre le chirurgien, je vous dis même pas ce qu'il pensait d'ailleurs, et son assistante, et plus de traces de l'infirmière qui s'est évanouie. Alors, on peut remettre aussi en cause l'exactitude des souvenirs, parce que bon, on a plusieurs histoires différentes, disons-le. Il y a plusieurs versions, donc...
Oui, pour revenir sur le point des 40 ans, c'est un peu comme on a le problème avec les témoignages de Roswell en 40 ans, même s'il a eu, il a vraiment eu une expérience inhabituelle au moment, donc une sortie du corps, une expérience de mort imminente à ce moment-là, en 40 ans, tu le mentionnes dans ton article, en ayant lu le livre de Raymond Moody, ses souvenirs se sont altérés, c'est un peu ça que tu suggères.
Voilà. Voilà, parce que, effectivement, alors ça, il le dit très souvent, il met 40 ans à parler de cette histoire. Parce qu'il avait peur d'être pris pour un fou, parce qu'il jouait au foot dans l'équipe locale et qu'il craignait, enfin bon. Alors, présenté comme ça, bon, mais c'est une chose, on a une information, pendant 40 ans, il n'en parle pas. Ce n'est pas vrai du tout. En 40 ans, il en parle, il lit au bout de 15 ans. Alors là aussi, justement, il donne une date, il dit qu'il a lu le livre de Raymond Moody qui s'appelle « La vie après la vie ». Et qui serait sorti en 75, ce qui fait... Alors moi, j'ai vérifié, ce livre est sorti en 75, donc 26 ans après les faits. Quand on écoute Jean Morzel, il dit que 10 ou 15 ans après son expérience, il lit le livre de Raymond Moody, La vie après la vie. Or, justement, la première parution de ce livre est de 75, ce qui fait 26 ans. Ça n'en fait pas 10, ça n'en fait pas 15, il y en a 10 de plus au minimum. Donc là aussi, je crois que M. Morzel ne ment pas, M. Morzel n'invente pas, mais je crois qu'on peut très sérieusement émettre des doutes sur la qualité de ses souvenirs. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est que ayant lu le livre de Monsieur Moody, et alors, dans le meilleur des cas, d'après lui, ça fait 10 ou 15 ans, bon, moi, avec les informations que j'ai, c'est 26 ans après, il mettra quand même 40 ans avant d'en parler publiquement de cette histoire. Je suis désolé, mais il le dit lui-même. Pendant ces 40 ans, ce n'est pas qu'il n'en a parlé à personne. Pendant ces 40 ans, il a lu des livres. Il a rencontré d'autres gens. Il est entré dans une association qui réunit des gens ayant vécu ce type d'expérience. Il a tout le temps, involontairement, mais il a tout le temps d'enrichir ses souvenirs, des souvenirs des autres. Il a tout le temps d'affiner la chose, d'y rajouter des éléments, et on l'a vu, c'est le cas.
J'aurai certainement une interview prochainement sur le syndrome des faux souvenirs où on discutera des problématiques de la mémoire. Mais c'est clair que, enfin, pour le dire en trois mots, la mémoire humaine, ça fonctionne pas comme une caméra qui enregistre fidèlement après 40 ans. C'est pas spécifique à lui, je veux dire, nos souvenirs à nous sont certainement altérés. Quand j'aurai 60 ans et que je me souviendrai de ce que j'ai fait 40 ans avant, je suis certain que la plupart de mes souvenirs seront incorrects, ça n'a rien de...
Bien sûr.
Enfin, généralement, c'est dû au fait que le souvenir est vivace et les gens pensent que parce qu'un souvenir est vivace, alors il est correct. Alors, ce que les recherches en psychologie ont montré, c'est que la vivacité d'un souvenir ne permet pas de déterminer qu'il se soit réellement passé tel qu'on se souvient. Mais on a l'impression que si on peut se souvenir de manière vivace de quelque chose, alors ça c'est correct, mais c'est une illusion cognitive.
Tout à fait. D'ailleurs, je l'ai vécu. Pour faire une petite anecdote, je l'ai vécu. Durant des années, pas loin de 25 ou 30 ans, raconté quand ça se présentait, que quand j'avais 5 ou 6 ans, je m'étais fait une triple fracture au bras gauche. Mais vraiment, quand je le racontais, c'était pas bon, c'était quand la conversation se présentait ou autre, mais... J'avais devant les yeux le chirurgien, d'ailleurs du service où travaillait ma mère, j'avais devant les yeux le chirurgien en train de montrer à ma mère la radio avec 3 fractures et tout, me l'expliquer ensuite à moi, vraiment, vraiment. Et puis un beau jour, un repas de famille, avec mon frère, on vient de parler justement de quand on était gosse, et je reviens sur cette histoire et cette triple fracture. Et ma mère m'arrête, mais elle me dit, mais attends, mais c'est quoi ces 3 fractures? Elle me dit, tu t'es cassé le poignet, c'est tout, on t'a mis nos broches, bon d'ailleurs j'ai encore la marque. Mais j'ai dit, maman, attends, non, j'avais le poignet cassé, l'humérus un peu plus haut et encore un peu plus haut. Alors elle me maintient que non, et de mon côté je lui maintiens que oui, sur la base de, mais écoute, je suis pas fou, je m'en souviens parfaitement. Sauf que ma mère, qui n'est pas sceptique, mais qui garde absolument tout, mais tout... repas, ne dit rien, s'en va, et puis elle revient quoi, 10 minutes, un quart d'heure après, et elle me met sous le nez la radio, le compte rendu et tout, avec la date, avec tout ce qu'on veut, et effectivement, je n'avais qu'une fracture du poignet, rien d'autre. Et je suis resté persuadé pendant un minimum de 20 ans que je m'étais fait ce jour-là une triple fracture. Donc comme ouais, quoi, enfin, moi je l'ai vécu, on peut se tromper.
Oui, on arrive tout doucement à la fin de l'interview. Est-ce que tu peux discuter de la question de la fameuse plaque, puisque c'est quand même un point important.
Alors voilà. Alors une fois qu'on élimine un petit peu le tout, on a quoi? On a cette fameuse plaque qui là est le truc absolu. Alors une chose importante, c'est que Monsieur Morzel dit dans une interview télévisée qu'un ami à lui a retrouvé cette plaque. Il en aurait même retrouvé le numéro de fabrication et qu'elle aurait été fabriquée en 1943. Donc c'est assez précis, hein, justement. Alors moi, de mon côté, bon ben j'ai commencé par ça. J'ai dit, tiens, puisqu'un ami à lui l'a retrouvé, alors j'ai cherché, Monsieur Morzel a un site internet à lui, avec un forum et autres. Donc j'ai demandé sur son forum, puisqu'il y a une partie où on peut poser des questions, j'ai demandé à voir les renseignements de son ami, comment il a retrouvé cette plaque et autres, parce que moi je ne trouve rien. J'ai écrit, c'est également resté lettre morte, j'ai aussi écrit au professeur Charbonnier, qui est omniprésent dans cette histoire, c'est resté lettre morte, et de mon côté, j'ai fait des recherches. Alors moi, j'ai fait des recherches, alors je vais donner quelques endroits où j'ai écrit. Alors j'ai écrit au Musée de l'Art et de l'Industrie de Saint-Étienne, j'ai écrit, ça c'est une amicale justement des gens qui travaillent à la Saint-Étienne, si je me trompe pas, à l'histoire de la manufacture de Saint-Étienne. J'ai écrit à manufrance.eu, manufacture d'hier et d'aujourd'hui. J'ai écrit à la marque NF Médical, également pour savoir si la manufacture avait à un moment ou un autre fabriqué des pièces qu'on pourrait retrouver sur une table d'opération ou même éventuellement dans un bloc opératoire. J'ai écrit à la mémoire de l'Académie nationale de chirurgie. J'ai écrit à la ville de Saint-Étienne. Là, je dois téléphoner parce que j'ai écrit, donc on m'a fourni un numéro de renseignement qu'il faut que je contacte et je n'en ai pas eu le temps. Alors, depuis 1987, les archives emblématiques de l'entreprise stéphanoise Manufrance Alors, j'ai écrit au Conseil général de la Loire, qui me renvoie vers les archives, justement, du Conseil général. Bref, toute l'histoire de la manufacture de Saint-Étienne est en train d'être numérisée. Donc, je n'attends pas qu'il n'ait fini, j'essaye d'aller un peu plus vite, mais je vais savoir si ça ne suffisait pas, je dirais, de façon sûre, si un jour la manufacture de Saint-Étienne, d'armes et cycles de Saint-Étienne, a pu fabriquer quoi que ce soit qui puisse se retrouver dans un bloc médical militaire en 1949, et ça serait encore mieux, sur une table d'opération. Moi, avec toutes les recherches que j'ai faites, j'ai également trouvé un vieux bouquin qui est l'histoire de la table d'opération en France. En fait, je veux dire, je l'ai creusé, hein, je donne tout ce que j'ai pu trouver comme référence. J'ai creusé, à aucun moment, mais alors rien de rien, je ne trouve quoi que ce soit qui pourrait même de loin faire penser qu'une plaque avec écrit « Manufacture armée cycle de Saint-Étienne » ait pu se retrouver sur une table d'opération en 1949. Rien, rien, rien. Il n'y a aucune trace que la manufacture d'armée cycle de Saint-Étienne ait fabriqué quoi que ce soit à but médical. Rien du tout. Alors, vu que c'est l'élément essentiel de cette affaire, vu que par le professeur Charbonnier, c'est présenté comme des preuves scientifiques, moi je demande à les voir. Vu qu'un ami de M. Morzel l'a retrouvé, la trace de cette plaque, le numéro et tout, je demande à le voir. Je demande à le voir et je demande à voir les éléments pour le vérifier par moi-même. Parce que moi, je ne trouve rien. Mais alors, strictement rien. Même pas quelque chose qui me laisserait un doute. Rien du tout. Il n'y a aucune trace nulle part que la manufacture d'armes cycles de Saint-Étienne ait fabriqué quoi que ce soit qu'on puisse retrouver dans un bloc opératoire en 1949 et même après d'ailleurs. Rien de rien. Zéro total. Donc à partir de là, après tout ce déjà qu'on a vu, on peut se dire que cette histoire, elle est pas, elle ne prouve rien. Je suis désolé, il n'y a rien qui est prouvé, rien du tout. Et là, justement, où j'en veux, ce n'est pas Monsieur Morzel, parce que Monsieur Morzel, justement, bon, ça n'engage que moi, mais je pense que il ne ment pas. Je pense qu'il a plus un faux souvenir. Je vais y venir rapidement, puisqu'on est un petit peu à la fin. Je vais y venir rapidement, mais je pense que cet homme, simplement, s'est fabriqué un faux souvenir. Et dans cette idée-là, il est tout à fait sincère quand il raconte ce qu'il raconte, mais c'est un faux souvenir. On le voit bien, les choses n'ont pas pu se passer à plus de niveau, comme il le raconte. Alors, dans mes recherches également, et toujours en l'écoutant, il y a une chose, on va peut-être me le reprocher, je ne sais pas, je vais quand même le dire. Et il y a une chose que j'ai remarqué, moi, c'est que Monsieur Morzel, alors c'est pas, tant pis, je le dis, hein, je vais le dire à ma façon, il y a bien quelqu'un qui sautera dessus, mais c'est pas grave. Monsieur Morzel, en tout, a été marié 3 fois. Il est dans son 3e mariage. Et une chose, moi, qui me paraît importante, c'est que c'est dans un article qu'il donne à la Dépêche, je crois, justement. Il est dit que c'est sa femme qui l'a poussé à témoigner. Donc il met 40 ans hein, avant de parler publiquement de cette histoire, et c'est sa femme qui lui aurait dit: il faut que tu le racontes, il faut que tu expliques aux gens ce que tu as vu, comment ça s'est passé. Alors je crois qu'elle aussi est plus que sincère, mais bon, j'y vois là moi déjà une première influence. Sa femme, en le poussant à raconter l'histoire, il y a déjà une influence. Il le dit lui-même, il a 2 mariages qui n'ont pas marché. Quand on aime quelqu'un, même inconsciemment, on a envie de faire plaisir. Alors, elle lui demande de témoigner de cette chose. Elle est actuellement sa secrétaire, enfin, elle s'occupe d'un tas de choses. Elle est fascinée, c'est le mot employé par le journaliste, elle est fascinée par son mari et son histoire. Est-ce que le fait que sa femme lui demande de raconter cette histoire, et est-ce qu'inconsciemment le fait de vouloir lui faire plaisir, simplement, aussi simplement que ça, ne l'amène pas justement à amener ces éléments en plus, toujours inconsciemment, toujours de bonne volonté, mais à amener ces éléments en plus qu'on a pu voir, qui dans les témoignages viennent se greffer au fur et à mesure du temps pour devenir quelque chose de bien plus gros que ce que c'est au départ, quoique au départ c'est déjà étonnant et déjà quelque chose de surprenant. Alors moi, je dirais qu'il y a dans un premier temps cette influence-là, qui n'est pas du tout mercantile ou quoi que ce soit, hein, soyons clairs, hein, mais bon, qui inconsciemment de la part des deux se fait. Je n'oublie pas qu'il le dit lui-même, c'est environ 10-15 ans, ça je peux pas le savoir parce que lui-même parle de 10 ou 15 ans, 10 ou 15 ans après, donc il aurait lu le bouquin de Moody, qui pourtant en sort plus tard, mais il rejoint, il rencontre des gens qui ont vécu cette expérience, il monte lui-même, ou il participe, je ne sais plus, oui, il ouvre une branche française d'une association mondiale qui parle de ces décorporations de CNDE. Donc, je suis désolé, mais tout ça vient influencer ses souvenirs. Ou du moins, il faut le prendre en compte quand il en parle. On ne peut pas laisser scientifiquement toutes ces choses-là de côté. On ne peut pas. Il faut obligatoirement, je pense, si on est scientifique, en tenir compte et se poser la question de quel niveau d'influence ça tient dans le récit qui est raconté. Mais il y a plus fort que ça. Il y a plus fort que ça. Parce que aujourd'hui, quand on parle de Jean Morzel et de sa NDE, alors il est incontournable, on a le fameux professeur Charbonnier, médecin anesthésiste, réanimateur, qui est très connu, qui donne des conférences et qui écrit des tas de livres là-dessus. Et dans l'émission radio que je donne dans mon article, qui est assez longue, mais elle est très intéressante, c'est à la fin, elle est très intéressante pour ça, on a Monsieur Morzel qui dit que sur le tard, il rencontre le professeur Charbonnier, mais que naît une amitié très forte et tout, et il est clair, pour moi, il est plus que clair, que le professeur Charbonnier, actuellement et depuis qu'ils se sont rencontrés, chapeaute, c'est le mot que j'ai utilisé, chapeaute Jean Morzel. Il n'est pas rare de les retrouver tous les deux dans la même conférence, ou comme c'est le cas là, dans une émission radio. Mais dans cette émission radio, il y a une chose moi qui m'a fait bondir sur mon siège, que je trouve vraiment intéressante. C'est que à un moment le journaliste pose très clairement la question à Monsieur Morzel. Dans les gens qui racontent CNDE, qui ont vécu ce genre d'expérience, certains rapportent des, on va mettre des guillemets, pouvoirs. Éventuellement de voir quelquefois par flash l'avenir ou autre, bon, des pouvoirs de médiumnité, etc. Alors, le journaliste lui pose la question, vous, Monsieur Morzel, avez-vous, après cette expérience, ramené ou découvert des pouvoirs? Et là, c'est extrêmement intéressant, parce que Monsieur Morzel, qui est quelqu'un visiblement d'honnête, répond que non. Mais il est très clair. Il dit, la seule chose, et ce n'est pas des pouvoirs, c'est que j'étais vraiment un fervent catholique avant, et qu'aujourd'hui, sans quitter le catholicisme et autres, mais je m'éloigne de l'Église, de ses dogmes, de tout ça, parce que c'est de la mise en scène, bon. Donc, il le dit très clairement, sa spiritualité prend un autre chemin, mais il est très clair. Il n'a aucun pouvoir particulier après l'expérience. Il est clair là-dessus. Et alors, moi, ce qui m'a fait bondir mon siège et qui est très intéressant, c'est que quelques minutes après, on a, toujours dans la même émission, une interview au téléphone du professeur Charbonnier. Et le professeur Charbonnier, lui, sans qu'on le lui demande, dit que Monsieur Morzel a acquis depuis des pouvoirs de guérisseur. Il donne même un exemple que un jour il était avec lui, il y avait avec une dame qui avait mal au cou, un torticolis ou je sais plus trop quoi exactement, que Monsieur Morzel lui a posé la main sur le cou et qu'après elle se sentait mieux, machin et truc. Alors moi ça m'a fait bondir de mon siège. Parce que qu'est-ce que je vois quand j'entends ça? Je vois que le témoin lui-même, on lui pose clairement la question, il dit non. Et on voit que le professeur Charbonnier, derrière, qui écrit des bouquins, fait des conférences, machin et trucs, lui, il dit que oui. Donc il vient à nouveau rajouter encore une chose à cette histoire. Et ça, moi, ça me convient pas du tout. Surtout que ce monsieur qui est professeur, qui est médecin, n'arrête pas de dire partout qu'il a des preuves scientifiques de cette histoire, comme quoi la conscience survit hors du corps. Flûte, non, 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 c'est plus que clair. Lui-même vient rajouter ça, vient le greffer, alors que le témoin lui-même dit « non, je n'ai pas de pouvoir ». Alors, je l'ai écrit sur le papier, j'ai écrit au professeur Charbonnier pour lui dire « lisez-le, parce que voilà ce que j'ai dit de vous ». Moi, j'appelle ça un charlatan. J'appelle ça un charlatan. Moi, pour moi, le professeur Charbonnier, il a un cas qui est français, qui est mondialement connu, qui fait référence, c'est son cas, il a pris la personne sous son aile plus ou moins, et c'est son truc chouchou, et il monte la mayonnaise avec rien du tout. Voilà, je le dis très clairement.
Il y a eu toutes sortes d'études sur les expériences de mort imminente en parapsychologie, et un témoignage comme ça est plus en dehors au niveau des médias que des études avec un grand échantillon et des choses plus sérieuses. Mais je pense que pour le grand public, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui vient sur un plateau de télé raconter son expérience avec plein de détails plutôt que de rentrer dans des discussions scientifiques sur vraiment la validité de ce genre de phénomène. Mais enfin, de toute façon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les NDE. Il faudra que qu'on revienne sur le sujet avec l'étude de Pim Van Lommel et d'autres choses comme ça. Mais pour aujourd'hui, on va en rester là parce que l'émission se termine.
J'aurai du nouveau très prochainement. Je m'excuse, je t'avais dit aujourd'hui, bon, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais voilà, moi, contrairement à Charbonnier et bien d'autres, j'ai entrepris des recherches, chose qu'ils auraient dû faire. Et moi, j'ai retrouvé le fils du chirurgien qui a opéré Jean Morzel. Voilà, je l'ai retrouvé, je lui ai téléphoné. Il n'avait pas trop le temps de me parler, mais il me confirme qu'il connaît l'affaire, l'histoire, il la connaît, donc c'est déjà une chose. Mais on va voir ce qu'il en dit, on va voir ce que lui a raconté son père, précisément, on va voir à quel moment il le lui raconte, mais une des questions que je poserai également, c'est qui vous a contacté, comme je le fais aujourd'hui. Et s'il n'y a pas là-dedans toutes les personnes qui écrivent des livres, qui font des conférences, en parlant de preuves scientifiques sur cette histoire, alors j'aurai des choses à dire sur ces gens-là, alors.
Ok, bah tu nous tiens au courant. Allez, à la prochaine.
Ok.
Ciao.
Ciao.
Welcome to the realm of skepticality. What is skepticality? Skepticality is a podcast for those of us who view the world in a skeptical way. We do our best to find the truth behind the news, urban legends, UFOs, paranormal encounters, science, underreported social issues, and historical misconceptions.
You just don't get it.
Do you have a problem with the news? You like to make fun of those neighbors with tinfoil hats. Do you want to learn some new stuff? Do you want to get something you're not going to hear on your 24-hour McNews channel? Or the local radio dial?
Sure, yeah.
Right. Then tune in by visiting us at www.skepticality.com.
Spell it.
That's skepticality.com. Grab a couple of shows and stick them in your ear.
Ooh, it's waxy in there.
And by all means, don't listen to that voice in my head.
Voice? What voice?
No voices.
Skepticality. Truth. In podcasting.
Nous voici arrivés à la fin de l'épisode. Avant qu'on se sépare, je vous rappelle qu'il existe un blog lié à ce balado. C'est le blog Scepticisme Scientifique. D'ici là, à la semaine prochaine, c'était Jean-Michel Abrassard, sceptiquement vôtre.
Hello, my name is Measles. I'm what you got. I've entered your system by a droplet of snot. I used to be in danger, but now I have a friend. Her name is Jenny McCarthy. She brought me back from the dead. See, Jenny hates vaccines like Superman hates bombs. She has medical expertise because she's a mom. I know what you're saying. So is Susan Smith. And she drove her car in a lake when it was full of her kids. But I thank you to shut your mouth unless you're planning to cough, because Jenny's vaccine campaign is the only shot that I got. People thought I was eradicated just because they were educated. Jenny'd rather I'd stay alive, even if it means your kids die. Hello, my name is Mumps. It That's just what I'm called. You won't make fun of my name when I'm swelling your balls. Jenny says that my vaccine will mess your babies up, even though there's no evidence but the stuff she made up. Yes, I just rhymed up with up. What are you gonna do? All it takes is a few untreated, and I'm all up inside of you. People thought I was eradicated just because they were educated. But Jenny'd rather I stayed in the world, even if it means you're infertile. Hello, my name is Rubella. I think you've met my friends. You don't have to remember our names, you'll hear them again. Because a woman who picked her nose on MTV is more trusted than the doctors at the CDC. People thought I was eradicated just because they were educated. But Jenny'd rather I'd stay alive, even if it means your kids die.